La bibliothèque orbitale. Épisode 13. Résumé de l'épisode précédent. La situation est moyennement grave et relativement peu désespérée. Pitou, l'intrépide gladiateur cosmique, s'apprête à partir en vacances. Pendant 5 semaines, fini les menaces d'outre-monde, les invasions de poulpes belliqueux en provenance des confins de la galaxie et les rayons de la mort manipulés peu précautionneusement par quelque empereur cosmoplanétaire autoproclamé. Pitou est en vacances et il compte bien en profiter pour travailler uniquement son bronzage et son adresse à la pétanque. Cette année, pas de destination exotique en vue. Plutôt que les plages massantes de Tranquillou 6 ou les rivières de Morito de Farnios 4, Pitou a décidé de laisser son vaisseau spatial, le Zébu Jovial, au garage et de prendre ses quartiers d'été sur la Côte d'Azur. Les bagages sont faits, la caravane accrochée au break familial, son épouse Solange Pitou a préparé des sandwichs pour le trajet et son fils, Kevin Pitou, s'est levé aux aurores, c'est-à-dire avant 14h30. Bref, tout le monde est prêt à lever le camp, lorsque soudain... Pendant ce temps, à bord d'une station spatiale russe abandonnée, le narrateur tente d'oublier que sa situation actuelle lui interdit de profiter des bienfaits du soleil, de la mer et de l'observation de jeunes naïades en bikini, et décide de noyer sa solitude et son isolement dans un torrent de pastis. L'été étant à présent bien installé, et l'actualité littéraire ayant sombré dans une torpeur de saison, profitons-en pour délaisser pendant quelques semaines nos centres d'intérêt traditionnels et causons un peu cinéma. De cinéma de science-fiction, histoire de ne pas trop dériver. Plus précisément, de cinéma de science-fiction italien. Et plus précisément encore, de cinéma de science-fiction post-apocalyptique italien. J'entends déjà quelques esthètes cinéphiles qui auraient eu le mauvais réflexe de télécharger ce podcast invoquer les noms de tous les saints avant de s'effondrer raide mort sur leur PC. Ah ben oui, amis du bon goût, de la belle série B amoureusement conçue ou même du spectaculaire à gros budget, passez votre chemin. Ici, il sera avant tout question de nanars honteux, de séries Z navrantes et de produits tellement fauchés qu'on se serait presque attendu à voir les ouvreuses faire la quête pendant l'entracte, à l'époque où ces pellicules trouvaient tant bien que mal leur chemin jusque dans les salles de cinéma. Histoire de ne pas plonger trop brutalement nos auditeurs dans un océan de nullité cinématographique, nous commencerons notre feuilleton de l'été par ce qui s'est fait de moins pire dans le domaine, les films d'Enzo Castellari. Résumé de l'épisode précédent. Jusqu'au début des années 80, l'industrie cinématographique italienne a été l'une des plus dynamiques et l'une des plus prolifiques au monde. Elle a ainsi popularisé nombre de genres quand elle ne les a pas carrément inventés ou réinventés. Du péplum au polar et du western au fantastique, elle a été un lieu de création assez incroyable, où les pires navets côtoyaient sans complexe les chefs-d'œuvre. Il y a pourtant un genre dans lequel l'Italie a assez peu brillé, la science-fiction. Il y a certes, dans les années 60, les films d'Antonio Margheriti sous le pseudo de Anthony Dawson, il y a La planète des vampires de Mario Bava, et dans la foulée de Star Wars, il y a eu Star Crash et quelques autres. Mais, par rapport à d'autres genres, ils sont fort peu nombreux, et ceux qui ont marqué le genre sont encore plus rares. Il faudra attendre le début des années 80 pour voir soudainement apparaître dans les salles toute une série de films de science-fiction italiens, situés pour la plupart dans les mêmes décors délabrés et mettant en scène des histoires similaires, où il est question de mettre la main sur le dernier baril d'essence, la dernière source d'eau non contaminée ou la dernière vierge sur Terre. autant de films dont l'action se situe quelques années après une guerre thermonucléaire qui a décimé l'humanité, détruit la civilisation et transformé la planète en un immense désert radioactif. La principale raison d'être de ces films est d'exploiter un filon initié essentiellement par trois films qui ont connu un succès planétaire, New York 1997 de John Carpenter et Mad Max, le 1 et plus encore le 2, de George Miller. Les scénaristes et réalisateurs italiens vont piller sans vergogne ces œuvres pour nourrir les leurs, accouchant ainsi le plus souvent d'imitations mal branlées, fauchées et putassières. Et le premier film à avoir lancé cette mode, c'est Les Guerriers du Bronx d'Enzo Castellari. Qui est Enzo Castellari ? De nos jours, si son nom n'est pas tout à fait tombé dans l'oubli, il le doit beaucoup à l'un de ses films, pourtant loin de figurer parmi ses meilleurs, datant de 1978, sorti en France sous le titre Une poignée de salopards, mais qu'on connaît mieux aujourd'hui sous celui sous lequel il a été exploité aux États-Unis, Inglourious Basterds. Merci Quentin Tarantino. Pourtant, sa filmographie est loin de se limiter à ce seul titre. Enzo Castellari, de son vrai nom Enzo Girolami, est né en 1938. Son père, Marino Girolami, fut l'un des réalisateurs les plus prolifiques de la série B italienne, signant près de 80 films en 30 ans de carrière, du péplum aux films d'horreur en passant par à peu près tous les autres genres. Dans la famille Girolami, citons également Ennio, le grand frère d'Enzo, qui se lancera pour sa part dans une carrière d'acteur et qu'on retrouvera régulièrement dans les films d'Enzo Castellari. Comme beaucoup de réalisateurs de sa génération, Enzo Castellari va faire ses débuts dans le western à la fin des années 60. Après quelques dollars pour Django en 1966, attribué à Léon Klimovski mais dont il a en réalité assuré l'essentiel de la réalisation, Enzo Castellari signe son véritable premier film l'année suivante, Seth Winchester pour un massacre. Un western des plus classiques, à l'américaine, dans lequel un petit groupe d'anciens confédérés s'est reconverti dans le pillage. Pour la petite histoire, Enzo Castellari souhaitait confier le rôle principal à Robert Redford, à l'époque encore quasiment inconnu, mais les producteurs lui préférèrent la vedette du petit écran, Ed Burns. Ce film marque également le début de la collaboration de Castellari avec son scénariste fétiche, Tito Carpi, collaboration qui se poursuivra jusqu'à la disparition de ce dernier. On retrouve Ed Burns dans le film suivant de Castellari, Je vais, je tire et je reviens, où il partage l'affiche avec George Hilton. Castellari persiste à se démarquer de la production italienne de l'époque en revendiquant ses influences américaines. Symboliquement, le film s'ouvre avec la mort des trois figures les plus fameuses du western italien de l'époque, Django, l'homme sans nom, et le colonel Mortimer, le personnage qu'interprétait Lee Van Cleef dans Pour quelques dollars de plus. À la noirceur affichée par les meilleures productions de l'époque, Enzo Castellari préfère une approche plus ludique du genre, versant à l'occasion du côté de la comédie, comme dans Aujourd'hui ma peau demain la tienne en 1968, avec John Saxon. Ce qui ne l'empêche pas de signer des scènes d'action particulièrement spectaculaires, en particulier dans Tuez les tous et revenez seul avec Chuck Connors, où les fusillades se succèdent à un rythme soutenu tout au long du film. Mais le film le plus intéressant de cette première période est sans conteste Django porte sa croix, titre français à la con sans le moindre rapport avec le contenu du film. On lui préférera plutôt son titre américain, Johnny Hamlet, puisque Castellari et Tito Carpi se sont amusés à transposer la tragédie shakespearienne dans le cadre du western. Le ton est cette fois nettement plus sombre, et le film flirte à l'occasion avec le fantastique, notamment lorsque le père de Johnny lui parle dans ses rêves, ou lors des scènes situées dans un cimetière à l'intérieur d'une grotte. Mais dans le genre, on doit surtout à Enzo Castellari ce qui est généralement considéré comme le dernier grand western italien, Keoma. Sorti en 1976, avec Franco Nero dans le rôle principal, Keoma apparaît comme une ultime tentative de relancer le genre, à une époque où il avait quasiment disparu des salles. L'histoire est celle d'un orphelin indien, recueilli et élevé par un blanc, qui revient des années plus tard dans le village où il a grandi pour le découvrir ravagé par la peste et terrorisé par un gang dont font partie ses trois demi-frères. Sur une trame assez classique, Enzo Castellari construit un récit mélancolique, ponctué d'éclairs de violence qu'un Sam Peckinpah n'aurait pas renié. Et Franco Nero, qui avait marqué l'histoire du genre en créant le personnage de Django 10 ans plus tôt, dans le film de Sergio Corbucci, donne naissance ici à une autre figure légendaire, presque christique, du western italien. Enzo Castellari devra attendre presque 20 ans pour réaliser un nouveau western, Jonathan of the Bears. Le film se situe dans le prolongement de Keoma, et pas seulement parce que Franco Nero y tient le premier rôle. Il y interprète cette fois un orphelin blanc élevé par des Indiens qui va chercher à venger le meurtre de ses parents. L'intrigue sert essentiellement de prétexte à une description réaliste de la vie aux États-Unis à la fin du 19e siècle, tant celle des Américains que des Indiens. Malgré ses qualités, le film ne rencontrera pas le succès et n'a d'ailleurs jamais été distribué en France. Le déclin du western italien dans les années 70 va obliger Enzo Castellari à se tourner vers d'autres genres. Le film de guerre avec Sur ordre du Führer en 1969, mais aussi 2 ans plus tard le Giallo avec Cold Eyes of Fear, oui je vous épargnerai ma prononciation du titre original, j'ai fait allemand deuxième langue. Ou encore la comédie avec La Grande Débandade, film que je n'ai pas vu mais dont on peut raisonnablement penser qu'il tient du chef-d'œuvre, puisqu'Aldo Macchione y interprète Napoléon et Ursula Andress l'impératrice Joséphine. Mais c'est surtout dans le polar que Castellari va signer quelques-uns de ses meilleurs films. A commencer par Le témoin à abattre, en 1973, sa première collaboration avec Franco Nero. Le film constitue l'archétype du polar à l'italienne, qui voit un flic intègre lutter seul contre le crime organisé. Un succès qui donnera naissance à plusieurs suites, pour lesquelles Franco Nero cédera sa place à Maurizio Merli, et Castellari à son père, Marino Girolami. L'année suivante, Castellari et Nero collaborent une nouvelle fois pour Un citoyen se rebelle, sans doute leur meilleur polar. Franco Nero y joue le rôle d'un homme ordinaire, traumatisé après avoir été kidnappé au cours d'un braquage raté, et qui décide de se venger de ses ravisseurs. Le sujet rappelle forcément celui d'un justicier dans la ville, gros succès de l'époque, mais le traitement est bien plus intelligent. Le personnage qu'interprète Nero va très vite se rendre compte qu'il pénètre dans un monde infiniment dangereux, dont il ne comprend pas les règles, et il va s'en prendre plein la gueule pendant 1h30. L'interprétation de Nero est assez extraordinaire de ce point de vue. En 1976, Enzo Castellari réalise un film qui est au polar italien ce que, à toute épreuve de John Woo, sera 15 ans plus tard au film d'action de Hong Kong, Racket. Il n'est d'ailleurs pas interdit de penser que Woo connaissait le travail de Castellari. Quoi qu'il en soit, Racket, histoire classique d'un flic aux méthodes expéditives, interprété par Fabio Testi, est un concentré d'action et de fusillade dantesque, comme on en a rarement vu à l'époque, mis en scène qui plus est avec une précision d'horloger. Dans le genre, le cinéma italien n'a jamais fait mieux. On passera en revanche très vite sur Action immédiate, sorti en 1977, enquête mal foutue dans le milieu des trafiquants de drogue, que même la présence de Fabio Testi et de David Hemmings, l'inoubliable interprète du blow-up d'Antonioni et de Les frissons de l'angoisse de Dario Argento, ne parvient pas à rendre intéressant. Avec le recul, il apparaît que 1976, qui voit coup sur coup sortir en salle Racket et Keoma, marque l'apogée de la carrière d'Enzo Castellari. La suite est plus anecdotique, même si on y trouve d'aimables divertissements comme le fameux Inglourious Basterds en 1978. D'ailleurs, même lorsqu'il réalise en 1981 La mort au large, un plagiat éhonté des Dents de la mer de Spielberg, Castellari parvient à en faire un spectacle distrayant, malgré un manque de moyens évident. Dans le genre, le film est même infiniment plus recommandable que le troisième volet de la série, sorti dans les salles et en 3D 2 ans plus tard. Mais je vois que l'horloge tourne et il est plus que temps d'en venir au sujet qui nous intéresse dans le cadre de notre feuilleton de l'été. Les trois films de science-fiction que réalisa Enzo Castellari en 1982 et 1983, à commencer par le plus connu d'entre eux, Les Guerriers du Bronx. Sorti en 1982, Les Guerriers du Bronx trouve son inspiration dans deux gros succès de l'époque, New York 1997 de John Carpenter et Les Guerriers de la Nuit de Walter Hill. L'action se déroule en 1990, alors que le Bronx est devenu un no man's land, où quelques gangs font la loi et s'affrontent pour défendre leur territoire. On y trouve ainsi les Riders, descendants directs des Hells Angels, les zombies déguisés en hockeyeurs et se battant à coups de crosse dans la gueule, ou encore les Tigers, déguisés en gangsters des années 20. Tout ce petit monde va s'étriper joyeusement, jusqu'à ce qu'ils doivent faire cause commune pour résister à un assaut des forces de l'ordre, décidés à faire le ménage dans le Bronx une bonne fois pour toutes. Dans le genre, Les Guerriers du Bronx, c'est à peu près ce qui s'est fait de mieux en Italie. Le film, tourné à New York dans un quartier en démolition, tire profit de ses décors en ruine, ses immeubles délabrés et ses trottoirs défoncés. Il contient quelques scènes mémorables, comme ce rassemblement de motards sous le pont de Brooklyn, rythmé par un long solo de batterie. Et les scènes d'action y sont nombreuses et, dans l'ensemble, bien foutues. Et surtout, Les Guerriers du Bronx bénéficient de la présence de quelques excellents acteurs dans des seconds rôles. Il y a George Eastman, l'un des piliers de la série B italienne, Vic Morrow en flic sadique, et surtout Fred Williamson, le roi de la blaxploitation dans les années 70 et le mec le plus cool de l'univers. Regardez dans n'importe quel dictionnaire anglais, cherchez la définition du mot cool et vous trouverez forcément dans la marge la photo de Fred Williamson. Le gros souci en revanche, c'est l'acteur qui tient le rôle principal, Mark Gregory, alias Trash, un angelot chevelu, beau comme un guitariste de Motley Crue, et qui fait franchement tâche à tortiller du cul dans son jean taille 14 ans au milieu des bikers patibulaires dont il est censé être le leader. Quoi qu'il en soit, Les Guerriers du Bronx fera un carton au box-office, aussi bien en Italie qu'à l'international, et engendrera donc une suite l'année suivante, baptisée, devinez comment, Les Guerriers du Bronx 2. Dans ce second volet, les autorités ont décidé de régler le problème du Bronx une bonne fois pour toutes et de raser le quartier. Plutôt que d'envoyer un courrier recommandé à ses habitants, elles préfèrent débarquer en force et passer tout ce petit monde au lance-flammes. Sans surprise, cette suite est nettement moins réussie que le film précédent. On ne s'y ennuie pas vraiment, Enzo Castellari multipliant les scènes d'action et les fusillades d'un bout à l'autre du film, mais on est loin de la maîtrise qu'affichait Rackett dans le genre. Mark Gregory, lui, est toujours aussi nul, et il n'y a guère que la présence d'Henry Silva dans le rôle du méchant de service pour nous consoler, même si celui-ci n'a pas grand-chose à faire durant 1h30, à part tirer la tronche et engueuler ses troupes. Il faut dire aussi que l'uniforme dont on l'a affublé, moitié officier SS, moitié roi du disco, n'aide pas vraiment. Ceci dit, ce deuxième volet des Guerriers du Bronx peut passer pour un chef-d'œuvre si on le compare au Nouveau Barbare, sorti en salle l'année précédente. Cette fois, Enzo Castellari signe un remake de Mad Max 2 qui fait peine à voir. Nous sommes en 2019, après une guerre nucléaire qui a ravagé la planète. Les derniers survivants se sont réunis en petits groupes et sillonnent les routes à bord de véhicules bricolés avec les moyens du bord. Ils sont la cible d'un gang de motards, les Templiers, qui veulent réduire en cendres les derniers vestiges de la civilisation. Dans le rôle du Mad Max de service, on retrouve Timothy Brent, sympathique acteur de série B, déjà croisé à l'affiche de plusieurs autres films de Castellari, mais pas vraiment à l'aise dans ce rôle. D'autant moins à l'aise qu'il y arbore un brushing impeccable qui lui donne des airs de Frédéric François post-apocalyptique. Il faut dire que niveau costume et coupe de cheveux, on est gâté. Mention spéciale pour l'invraisemblable moumoute que Castellari fait porter à son frangin Ennio Girolami, qui lui donne des airs de Jane Fonda à moustache, et pour la dégaine de Fred Williamson en Robin des Bois relooké par la styliste des Village People. En réalité, sous ses allures de SF post-apocalyptique, Les Nouveaux Barbares est un western. De la toute première scène où une caravane de véhicules en cercle doit se défendre contre une attaque d'Indiens, contre un gang de motards, jusqu'au duel final où Timothy Brent débarque en arborant le poncho que portait Clint Eastwood dans Pour une poignée de dollars, Enzo Castellari multiplie les clins d'œil à son genre de prédilection. Malheureusement, côté réalisation, Castellari n'assure même plus le minimum syndical. Les scènes d'action sont filmées n'importe comment, les cascades font peine à voir. Comparé à la grande époque du réalisateur, où il parvenait à filmer des poursuites en voiture particulièrement spectaculaires, les courses d'auto-tamponneuses qu'il mettait en scène ici sont juste ridicules. Finalement, le seul moment où le spectateur sort quelque peu de sa torpeur, c'est pendant la scène où Timothy Brent, capturé et ligoté par le gang des Templiers, finit par se faire sodomiser par le chef de la bande, interprété par George Eastman. Juste pour cette scène hallucinante et totalement barrée au niveau réalisation, on serait presque tenté de conseiller le visionnage des Nouveaux Barbares, mais alors en avance très rapide. Bien qu'anecdotique dans la carrière d'Enzo Castellari, Les Guerriers du Bronx 1 et 2 et Les Nouveaux Barbares n'en ont pas moins initié un genre à part entière, dans lequel vont se lancer d'autres réalisateurs plus ou moins doués. Parmi eux se trouve un autre petit maître de la série B italienne, auquel on doit le célèbre 2019 après la chute de New York, et dont nous parlerons la semaine prochaine, Sergio Martino.